Il y a 40 ans, une nouvelle victoire pour la dignité humaine avait lieu sur le long chemin de l'abolition universelle. La France abolissait enfin la peine de mort. Difficile à croire, et pourtant, il y a 40 ans tout juste, la peine de mort était encore une réalité en France. C'est en 1981 que le pays se détourne de cette peine d'un autre âge. Le 9 octobre 2021, a été l'occasion de célébrer cet acte historique, ce jour où la France mettait fin aux homicides volontaires et prémédités, aux assassinats étatiques. Depuis cette date, quels que soient les gouvernements, la France a toujours affirmé son opposition en toutes circonstances à la peine capitale. Aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort a petit fait son chemin, victoire après victoire, pays après pays. Pourtant, en 2021, même si 2/3 des pays dans le monde sont désormais abolitionnistes, 55 pays continuent toujours à condamner à mort des personnes, parmi lesquelles notamment la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore les États-Unis. Discours de Robert Badinter, pour que la justice française ne soit plus une justice qui tue. Il y a 40 ans, le 17 septembre 1981, Robert Badinter plaidait devant l'Assemblée nationale en faveur de l'abolition de la peine de mort. Voici son discours historique qui a mené le 9 octobre 1981 à l'abolition de cette sentence cruelle et inhumaine. Le groupe local de la CIMAD de Figeac, l'association Jamais sans toi 46 et la Ligue des droits de l'homme fêtent avec le groupe Amnesty International de Figeac les 40 ans de l'abolition de la peine de mort et propose une présentation théâtrale avec les voix de Marthe et Luc, des arguments du discours de Badinter à la tribune de l'Assemblée.
Paris, 17 septembre 1981. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, Robert Badinter.
Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Près de 2 siècles se sont écoulés depuis que, dans la première assemblée qu'ait connue la France, le pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Robespierre, à son tour, la même année.
Je viens prier les législateurs d'effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques et que repoussent leurs mœurs nouvelles et leurs constitutions nouvelles. Je veux leur prouver, premièrement, que la peine de mort est essentiellement injuste. Deuxièmement, qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient. Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort qu'elle ordonne avec tant d'appareils, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels commis non par des individus, mais par des nations entières. Écoutez la voix de la justice et de la raison. Elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes, sujets à l'erreur. Eussiez-vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait? Eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés? Il restera toujours quelque place à l'erreur ou à l'incertitude. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer? Ravir à l'homme la possibilité d'expier son forfait par son repentir ou par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, à l'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son crime, est, à mes yeux, le raffinement le plus horrible de la cruauté.
Je regarde la marche de la France, dit Badinter. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emportée au moment privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les esprits précautionneux qui s'exclamaient à l'époque que sans la torture, la justice française serait désarmée. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, à abolir la peine de mort.
Ce n'est pas la faute du génie national. C'est de France, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Pour ne citer que les plus célèbres, j'évoquerai Victor Hugo et Albert Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clémenceau et surtout à Jaurès? Tous se sont levés, tous ont soutenu la cause de l'abolition.
Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette paralysie devant cette loi sanguinaire? Je ne vois qu'une explication qui est d'ordre politique. L'abolition regroupe depuis 2 siècles des hommes et des femmes de toutes les classes politiques, de tous les étages de la société. Mais pour être plus précis, elle a toujours été une des grandes causes des forces du changement, des forces du progrès, parfois des forces de révolution, en un mot, des forces de gauche. Nous l'avons évoqué à l'instant, la première assemblée républicaine que la France ait connue, la grande convention du 4 Brumaire en 4 de la République, a proclamé que la peine de mort était abolie en France à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie. La paix fut rétablie, mais avec elle, Bonaparte arriva. Et la peine de mort s'inscrivit dans le code qui est encore le nôtre. Et, souvenez-vous, Fernandel nous l'a appris dans le Spunz. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Poursuivons le fil de l'histoire. La révolution de 1830 a engendré la généralisation des circonstances atténuantes. Le nombre des condamnations à mort diminue aussitôt de moitié. La révolution de 1848 entraîne l'abolition de la peine capitale en matière politique, que la France ne remettra plus en cause jusqu'à la guerre de 1939. Il faudra attendre 1908 pour qu'une majorité de gauche soit établie dans notre pays, pour que la question de l'abolition soit remise à l'ordre du jour. C'est alors qu'ici, dans cette assemblée, s'affrontèrent, dans un débat dont l'histoire de l'éloquence conserve encore le souvenir, Barrès et Jaurès.
Monsieur Maurice Barrès.
Je suis partisan du maintien de la peine de mort. C'est ce sentiment, et c'est une tradition très puissante dans la vie politique de ce pays, de croire que l'abolition de la peine de mort est un pas en avant dans la voie du progrès. Nous écoutons les médecins qui nous disent en regardant les assassins « Celui-ci tient son crime de son atavisme. Cet autre le tient du milieu dans lequel il a été plongé. Quand nous sommes en présence du membre déjà pourri, quand nous sommes en présence de ce malheureux, si nous considérons les conditions sociales dans lesquelles il s'est formé, mais c'est l'intérêt social qui doit nous inspirer, et non un attendrissement sur l'être antisocial. Pour ma part, je demande que l'on continue à nous débarrasser de ces dégradés, de ces dégénérés, dans les conditions légales d'aujourd'hui. La vie est en elle-même chose cruelle, et ce n'est pas avoir fourni un argument contre la peine capitale de constater ce que personne ne nie, qu'une vision de décollation est chose atroce. Mais c'est par amour de la santé sociale que je vote le maintien et l'application de la peine de mort. Répugnance, impuissance même des gens trop cultivés à accepter des responsabilités. Oui, j'ai vu cette idée plus ou moins nettement exprimée, que c'est une charge lourde pour un homme. Et c'est la vérité d'intervenir hautement et de dire avec netteté « Celui-ci est coupable, celui-ci doit être frappé. » La parole est à Jean Jaurès.
Après bien des siècles de dure histoire humaine, une heure est venue à la fin du XVIIIe siècle où une magnifique explosion d'espérance humaine et d'optimisme révolutionnaire s'est produite. Qu'est-ce, messieurs, que la Révolution française ? C'est une magnifique affirmation de confiance de la nature humaine en elle-même. Les révolutionnaires ont dit à ce peuple asservi et enchaîné depuis des siècles qu'il pouvait être libre sans péril. Et ils ont conçu l'adoucissement des peines comme le corollaire d'un régime nouveau de liberté fraternelle. Messieurs, quand les grands esprits de la Révolution faisaient pour les hommes ce rêve d'une justice adoucie, c'était pour une société régulière, équilibrée et fonctionnant normalement. Il y a des individus, nous dit-on, qui sont à ce point tarés, abjects, irrémédiablement perdus, à jamais incapables de tout effort de relèvement moral, et qu'il n'y a plus qu'à les retrancher brutalement de la société des vivants. Il y a, au fond des sociétés humaines, quoi qu'on fasse, un tel vice irréductible de barbarie, de passion si perverse, si brutale, si réfractaire à tout essai de médication sociale, à toute institution préventive, à toute répression vigoureuse mais humaine, qu'il n'y a plus d'autre ressource que de maintenir la guillotine. Voilà ce que j'appelle la doctrine de fatalité qu'on nous oppose. Je crois pouvoir dire qu'elle est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et a rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. C'est dans la race humaine l'absolu de la peine. Eh bien, nous n'avons pas le droit de prononcer l'absolu de la peine, parce que nous n'avons pas le droit de faire porter sur une seule tête l'absolu de la responsabilité.
Depuis lors, jamais plus la question ne s'est posée à l'Assemblée. On peut s'interroger. Pourquoi rien en 1936, lors du Front populaire ? La raison en est que pour la gauche, le temps fut compté. L'autre raison est que la guerre pesait déjà sur les esprits. À la libération, il faut convenir que les épreuves terribles de l'occupation faisaient peser sur les esprits des souvenirs trop cruels. Il fallait que revienne non seulement la paix des armes, mais aussi la paix des cœurs. Cette analyse vaut aussi pour les temps de la décolonisation. C'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait enfin être posée la grande question de l'abolition.
1970, la page de Gaulle tournée. Alors, pourquoi, pendant les deux dernières législatures, malgré les demandes de la Commission des lois et malgré les déclarations de certains membres du gouvernement qui s'étaient déclarés favorables à l'abolition, pourquoi ni Pompidou ni Giscard n'ont souhaité aborder cette question ? Il était urgent d'attendre. Attendre après 200 ans. Nous savons en vérité que la cause en est la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront aujourd'hui, mesdames, messieurs les députés, qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Nul plus que vous, à l'instant du vote sur l'abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie. Je me réfère non seulement à cette conception selon laquelle le Parlement est un phare qui ouvre la voie de l'ombre pour un pays, mais encore à la loi fondamentale de la démocratie qui est la volonté du suffrage universel et pour les élus, le respect de leurs engagements. Or, à deux reprises, lors de l'élection présidentielle et lors des élections législatives, la question a été directement posée au peuple français. Et le pays a répondu oui et oui. D'autres vous diront que l'abolition, parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, devrait être décidée que par la voie référendaire. Or, vous le savez aussi bien que moi, notre Constitution ne le permet pas.
Alors ensuite, rien n'a été fait pendant des années pour éclairer l'opinion publique. On ne s'est pas interrogé sur le fait que les grandes démocraties occidentales pouvaient vivre sans la peine de mort. On a occulté les conclusions des études contre le crime. Il n'a jamais établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort et la courbe de la criminalité sanglante. On a braqué le phare sur l'accroissement indiscutable, douloureux et auquel il faut faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales, donc faire face à l'accroissement de la petite et moyenne délinquance, celle qui, de toute façon, n'a jamais relevé de la peine de mort. En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'envisager avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même en technique répressive. Elle est un choix politique. Elle est un choix moral.
Je le répète une dernière fois, jamais, jamais la peur de la mort n'a dissuadé un être passionné, quelle que soit la nature de sa passion, de passer à l'action. Qu'en serait-il alors des grands sportifs, des pilotes de Formule 1, des alpinistes, des spéléologues s'ils avaient été arrêtés dans leur élan par la peur de la mort? Quand seraient-ils des pompiers, des gendarmes, des soldats s'ils avaient été arrêtés dans leur engagement professionnel par la peur de la mort? Alors je peux affirmer ici, pour qui veut s'interroger loyalement, concernant les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, ce qu'on appelle les crimes atroces. Ils sont commis le plus souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. À cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue.
Je sais qu'aujourd'hui, certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime face au terrorisme. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet, s'il est un type de femme et d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord, parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente. Ensuite, parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'il donne, mais aussi celle qu'il reçoit. Le terroriste a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne. « Viva la muerte !» Alors, croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est une illusion. Allons plus loin. Si dans les démocraties voisines confrontées au terrorisme, on se refuse à rétablir la peine de mort, c'est bien sûr pour des exigences morales, mais aussi pour des raisons politiques. Vous savez en effet qu'aux yeux de certains et surtout des jeunes gens, l'exécution du terroriste le transcende, efface la réalité criminelle de ses actes, en fait une sorte de héros. Dès lors, apparaît le risque de voir se lever dans l'ombre pour un terroriste exécuté 20 jeunes gens égarés, 20 jeunes gens exaltés. Ainsi, la peine de mort, loin de le combattre, nourrit le terrorisme. Et puis enfin, utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est, pour une démocratie, faire sienne les valeurs de ces derniers.
Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. D'une part, qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire totalement responsables de leurs actes, et d'autre part, qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. L'une et l'autre affirmation me paraissent erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille toujours désespérer. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible.
Le combat aujourd'hui est celui de la peine de mort, car cette justice qui donne la mort et qui pense qu'en supprimant le criminel fera disparaître le crime est une justice d'élimination. C'est une justice basée sur la passion et la peur. En fait, c'est une anti-justice. La justice, la vraie, n'est pas celle qui tue, mais celle qui est inspirée de la raison et des valeurs humanistes. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne.
Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, grâce à votre vote, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Aujourd'hui, grâce à votre vote, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises. Aujourd'hui, grâce à votre vote, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Aujourd'hui, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie.